BW. Vue d'Allemagne.
Willkommen, bonjour et bienvenue à tous dans Vue d'Allemagne. Mouhabet, chanteur germano-turc qui chante Allemagne en 2007, chanson sur l'immigration qui, pour la petite histoire, a été chantée à l'époque avec un certain Frank-Walter Steinmeier en studio. Ministre des Affaires étrangères en 2007, Frank-Walter Steinmeier n'est autre aujourd'hui que le président de la République fédérale allemande. Mais si on a choisi cette chanson donc dans Vue d'Allemagne aujourd'hui, c'est parce que ce numéro est consacré à la Turquie et surtout aux relations germano-turques. Numéro de Vue d'Allemagne à quelques jours de la visite de Recep Tayyip Erdogan en Allemagne. Ça bouge beaucoup en ce moment dans les relations entre les deux pays. Il y a du changement important pour tous les deux, l'Europe et même le Moyen-Orient. Mais d'abord, avant de recevoir nos spécialistes pour parler de ces questions, on prend la direction d'Ankara, car c'est de là que viendra Ersin Karabulut la semaine prochaine à Berlin. Fondateur il y a 11 ans du magazine satirique Yukuzuz, en Turquie, ce journaliste sera dans la capitale allemande pour animer un atelier avec des jeunes âgés de 16 à 24 ans. L'occasion de parler de son journal, de la presse en Turquie, de ses conditions de travail, qui en disent beaucoup sur la démocratie sur place. Alors avant qu'il ne fasse ses valises pour Berlin à Ankara, Solène Perman a pu rencontrer pour nous le caricaturiste.
Gaston, Tintin, Astérix et Obélix, Ersin Karabulut a grandi entouré de ses héros de bandes dessinées francophones. À 16 ans seulement, il publie sa première caricature dans un magazine satirique en Turquie. 10 ans plus tard, en 2007, il lance son hebdomadaire. Il le baptise Uykusuz, l'insomniaque en turc. Un clin d'œil à ses nombreuses nuits passées à dessiner, mais aussi une piqûre de rappel. Selon lui, il faut rester éveillé face aux agitations d'une société. Pour l'heure, Ersin Karabulut a les yeux rivés sur l'avenir de son magazine. Sa crainte, la flambée des prix du papier.
In Turkey, we don't produce paper.
En Turquie, nous ne produisons plus de papier. C'était le cas jusqu'à ce que le gouvernement décide de vendre les entreprises il y a quelques années, sous prétexte qu'importer le papier de l'étranger serait moins cher que de le produire. Or, la valeur de la livre turque s'effondre depuis plusieurs mois et nous achetons le papier en euros ou en dollars. Les coûts d'impression se sont donc envolés en Turquie. Nous avons dû augmenter le prix de notre magazine de 4 à 5 livres turcs, mais ce n'est pas encore suffisant. Je ne sais pas jusqu'à quand nous pourrons continuer ainsi.
Selon le syndicat des éditeurs turcs, les coûts de publication ont augmenté de 80% en Turquie ces derniers mois. Le magazine Uykusuz reste le premier hebdomadaire satirique en termes de vente, mais il est poursuivi pour insulte au président et comme d'autres médias d'opposition, il peine parfois à se dessiner une place dans le paysage médiatique.
C'est devenu très difficile de publier un journal d'opposition en Turquie aujourd'hui. Pas seulement à cause de la censure du gouvernement, mais aussi parce que certains kiosques et librairies n'affichent même plus nos magazines sur leurs étals. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de clients. Lorsqu'ils réclament le magazine, on leur répond que tous les exemplaires ont été vendus. En fait, ils sont simplement cachés.
Les kiosquiers disent ainsi éviter les tentatives d'intimidation, car au grand désespoir d'Ersin Karabulut, les menaces sont devenues monnaie courante dans les affaires du journal.
Nous en recevons beaucoup, par téléphone notamment, et en particulier depuis l'attaque de Charlie Hebdo, car nous avions décidé de publier une couverture noire en hommage aux victimes. Des individus se sont mis en colère car ils pensaient que nous critiquions la religion musulmane. En fait, nous étions seulement désolés pour nos collègues que nous avions admirés pendant des années.
Les contes ordinaires d'une société résignée, c'est le premier album de BD publié en français par Ersin Karabulut. Il est sorti en février dernier chez Fluide Glacial. Au fil des pages, avec poésie et ironie, l'insomniaque nous livre ses cauchemars. Celui, par exemple, d'une étrange maladie qui gagne du terrain et prive une partie de la population de ses couleurs. L'État prend alors une décision radicale, imposer le gris comme seule et unique couleur pour tout le monde.
Malheureusement, c'est un peu le résumé de la Turquie actuelle. Je déteste dire cela, mais depuis que j'ai dessiné cette planche de BD en 2014, Je constate que c'est exactement ce qui est en train de se passer. La Turquie a perdu de ses couleurs. C'est presque un crime aujourd'hui d'en porter. Je fais référence aux défenseurs de la cause LGBT. La police ne les laisse plus manifester. Ils sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est donc une histoire vraie, malheureusement, mais elle se termine par une touche d'espoir. Moi-même, je suis toujours rempli d'espoir pour la Turquie.
L'espoir, justement, d'éclaircir la relation entre la Turquie et l'Allemagne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu à Berlin le 28 septembre. Depuis quelques mois, la relation entre les deux pays affiche plusieurs signes de détente, après une année marquée par les provocations. Objectif de la visite, trouver une solution à la crise économique en Turquie. Selon la chancelière Angela Merkel, l'Allemagne a un intérêt stratégique à le faire, mais elle déplore la dégradation des droits de l'homme en Turquie. Pas question pour l'instant de fournir une aide financière à son allié de l'OTAN. Solène Perman à Istanbul pour la Deutsche Welle.
Et cette question de la visite du président turc en Allemagne, on en parle justement aujourd'hui dans ce magazine, parce que ce n'est pas une visite diplomatique anodine. Recep Tayyip Erdogan n'est pas venu en Allemagne depuis 2014, même si les deux pays ont des relations importantes. Depuis le coup d'État manqué de 2016 en Turquie, les relations entre les deux États se sont même beaucoup tendues. Des Allemands ont été arrêtés et mis en prison en Turquie, des livraisons d'armes stoppées l'an dernier en Turquie encore. Et le président turc avait même parlé de politique nazie en cours en Allemagne, ce qui donne le ton des relations entre les deux États. Mais depuis quelques mois donc, le mot « normalisation » ou « réchauffement » est évoqué des deux côtés pour parler de la relation entre l'Allemagne et la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas était même en visite sur place il y a 15 jours. Alors pourquoi ce changement? Il y a d'abord des raisons économiques. 7500 entreprises allemandes sont présentes en Turquie. Ankara est en pleine crise économique et en pleine relation compliquée avec les États-Unis. Mais ce n'est pas tout, explique le professeur de relations internationales à l'université d'Ankara et spécialiste des relations germano-turques Hüseyin Bahçe.
C'est important, mais c'est une partie de la réalité seulement. Évidemment, la Turquie subit une crise économique et l'Allemagne est le plus gros partenaire commercial de la Turquie. Mais ce n'est donc pas seulement économique. Il y a des problèmes en Europe, l'islamophobie, la radicalisation des populismes dans le monde, la guerre en Syrie, et il ne faut pas oublier que la Turquie est membre de l'OTAN. Il fallait donc que cette polarisation des relations entre l'Allemagne et la Turquie cesse pour prendre un nouveau départ.
Et pour le professeur Hüseyin Bahçe, ce nouveau départ est aussi une preuve de pragmatisme de l'Allemagne dans sa diplomatie mondiale.
Ce qui se passe dans les relations transatlantiques avec Donald Trump, l'Europe, l'OTAN, la Turquie, les États-Unis, souvent les problèmes se ressemblent. Et il ne faut pas oublier que la Turquie a de bonnes relations avec la Russie en ce moment et que l'Allemagne a aussi besoin de bons liens avec la Russie. Cette relation à trois va donc peser. L'Allemagne fait donc une politique pragmatique. Elle sait ce qui se passe en Turquie, mais Angela Merkel, pour des intérêts géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques, veut aussi poursuivre le dialogue avec la Turquie.
Allemagne et Turquie savent également qu'elles ont toutes les deux un intérêt à s'entendre pour tenter de mettre fin au conflit en Syrie. L'Allemagne est le pays qui a le plus de réfugiés syriens en Europe, la Turquie qui en a le plus dans le monde. Il y a donc des intérêts humanitaires, mais surtout pour les gouvernements, cela pèse dans leur politique migratoire intérieure et il y a là encore des intérêts économiques.
Cette région doit à nouveau être reconstruite. La Turquie est aussi voisine à la Syrie et il y a des milliers d'entreprises allemandes en Turquie. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises allemandes pourraient travailler en Syrie.
Mais cette normalisation des relations n'est pas encore complètement gagnée, déjà parce que le régime autoritaire mis en place au fil des ans, et davantage encore après le coup d'État manqué de 2016 en Turquie, dénoncé par l'Allemagne, ne change pas. C'est ce que raconte en tout cas Christian Brackel, le directeur du bureau de la Fondation allemande proche du parti des Verts Heinrich Böll Stiftung à Ankara.
Il n'y a pas la volonté de changer la politique intérieure en Turquie. La trajectoire sévère se poursuit sous la coupe du président dans tous les domaines. Les critiques du pouvoir continuent à être emprisonnées. Les violences policières ont aussi augmenté. Ce sont toutes des choses pour lesquelles rien n'a changé.
D'ailleurs, 7 Allemands sont encore emprisonnés en Turquie et l'Allemagne a posé comme condition à la normalisation des rapports leur libération. Le professeur Hüseyin Baci pense que cela ne se fera pas rapidement, mais Christian Brakel voit lui les choses autrement.
Le gouvernement fédéral a posé comme condition pour une complète normalisation et surtout pour une levée complète des blocages, comme ceux de la Banque européenne d'investissement par exemple, que tous les citoyens emprisonnés pour des raisons politiques soient remis en liberté. La position turque est de dire « oui, on a déjà remis en liberté certains comme Peter Steudner en début d'année ». La position turque est de se dire un peu « oui, voilà, c'était les cas les plus éminents dont on parlait beaucoup dans la presse qui posaient donc problème au gouvernement allemand et donc les autres, on va régler, mais on a déjà fait un grand pas maintenant. Non, c'est au gouvernement allemand de venir à nous. Je peux maintenant imaginer qu'on va trouver une solution pour ces personnes, mais je crains que dès que le cas des Allemands sera réglé, eh bien le gouvernement fédéral allemand oubliera les citoyens turcs qui sont aussi emprisonnés.
Alors, rapprochement temporaire ou à long terme, avec des pas en avant de chaque côté, avant même la visite symbolique d'Erdogan la semaine prochaine, on remarque des échanges nombreux entre conseillers, ministres ou même du côté économique depuis plusieurs semaines, comme si le mouvement de rapprochement était vraiment lancé. On saura certainement si c'est appelé à se poursuivre d'ici quelques jours. Merci à Ersin Karabulut, Hüseyin Baci et Christian Brakel d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci aussi à Solène Perman à Ankara et Anne Letouzé à Bonn dans la préparation de cette émission. Et puis merci à vous surtout de nous avoir suivis. Vous retrouvez les podcasts de Vue d'Allemagne sur notre site avant le nouveau numéro avec Anne Letouzé la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Tchuss.
So, four times. Deutschland, yes. Then Frankreich, then Deutschland.
Wir haben andere Sitten, ihr habt andere Sitten. Kommt, seh mir uns in die Augen, sagen die Meinung, zeigen das wahre Gesicht. Ihr fragt euch, wieso wir so sind, wir fragen, wieso ihr so seid. Komm, treffen wir uns endlich und reden völlig normal. Komm runter, komm endlich klar. Versteh mich und nimm mich wahr. Dein Urteil ist nicht wahr. Vergiss doch mal das schwarze Haar.
Deutschland.